Aujourd'hui à l'émission, la faim dans le monde et la situation en Afghanistan.
Le Monde aujourd'hui, avec Julien Corona.
Bonjour à tous, un nouveau numéro du Monde d'aujourd'hui. Deux invités, Madame Céline Fury de Oxfam Québec et Sami Aoun de l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Notre première invitée du jour, c'est Céline Fury, la coordinatrice humanitaire à Oxfam Québec. Bonjour Madame Fury.
Bonjour Monsieur Corona.
Donc avec vous, on va discuter de faim dans le monde cette semaine. Ce problème toujours aussi présent et malheureusement en constante augmentation est revenu sur le devant de la scène avec la petite bisbille, grosse bisbille même, à coût de 6 milliards de dollars, entre Elon Musk, le patron de Tesla et propriétaire et homme le plus riche du monde présentement, et le patron, le directeur du Programme alimentaire mondial du PAM. À la suite d'un récent échange entre le directeur du PAM et le milliardaire Elon Musk, le problème de la faim dans le monde a pu revenir, et sur un montant de 6 milliards de dollars. Ma première question est simple, peut-on régler ce problème avec seulement 6 milliards de dollars ?
Alors d'abord, je pense qu'il faut éviter de voir le problème de la faim dans le monde comme une question simple. Et donc la réponse ne peut pas non plus être unique et passer seulement à travers de l'argent. Alors oui, évidemment que ça serait nécessaire d'avoir 6 milliards de dollars, mais il faut se souvenir que cet appel-là, il est pour des réponses humanitaires. Mmh. Donc des réponses vraiment qui permettent la survie des gens qui ont été plongés dans des niveaux de faim extrêmes par les conflits, par la crise climatique, par la COVID-19. Mmh. Ça n'est pas suffisant pour remédier à des problèmes beaucoup plus structurels d'inégalité, de systèmes alimentaires qui ne conviennent pas, qui ne sont pas durables, qui ne sont pas équitables. Mmh.
Je vous invite...
Ça serait une partie de la solution, disons.
Vous invitez parce que ce problème revient sur le devant de l'actualité. Je pense qu'il est nécessaire pour nos éditeurs de pouvoir, surtout avec l'oubli, des oublis liés potentiellement à la COVID et à la dernière année où ce problème de faim dans le monde n'a pas été dans la chronologie des médias, pouvoir remettre en contexte un peu cette faim dans le monde. Quels sont les grands chiffres qui la représentent ?
Bien, il faut savoir que cette année et l'année dernière, on a constaté que par minute, dans le monde, il y a 11 personnes qui meurent de la faim, des effets de la faim, versus 7 du coronavirus. Mmh. Donc effectivement, la pandémie a un peu éclipsé ce problème à nos yeux, même si nous, dans notre travail, dans nos contacts avec nos partenaires dans les pays du Sud, on entendait régulièrement dire « bon, la COVID et ce virus, c'est vraiment un de nos multiples problèmes et on s'attend, et beaucoup de gens autour de nous s'attendent à mourir d'abord de faim plutôt que de problèmes liés à la santé. » Oui. Donc, il y a 20 millions de personnes supplémentaires cette année qui sont confrontées à l'insécurité alimentaire extrême. On est rendu à un total de 155 millions de personnes.
C'est quasiment
dans
un Canada.
Pays.
Quasiment à la moitié d'un Canada.
Exactement, exactement.
Pour remettre en contexte, oui. C'est énorme.
Oui, oui. Et depuis le début de la pandémie l'année dernière, ça a été multiplié par 6, hein, le nombre de personnes qui vivent dans des conditions carrément équivalentes à la famine. Mmh. Donc, on est rendu à 520 000 personnes. Et ces conditions de famine, c'est vraiment ce qu'il y a de plus extrême dans la faim extrême qui, elle aussi, a augmenté.
Est-ce que le chiffre de 6 milliards masque pas néanmoins la principale problématique ou plutôt la principale raison de la faim du monde ? Parce qu'on dit que c'est question économique, question logistique, mais vous parlez de famine, vous parlez de différents problèmes liés à des politiques. Est-ce que ça serait plutôt aussi un problème d'ordre géopolitique, cette faim dans le monde ?
Évidemment, parce que la faim, elle a des causes multiples, mais la principale, je dirais, dans les terrains sur lesquels nous, on travaille, ça reste les conflits. Il y a 23 pays qui sont déchirés par des conflits et où on a vu 100 millions de personnes être plongées dans la faim cette année. Et là-dedans, ce sont 22 millions de nouvelles personnes. Donc effectivement, là encore, presque un Canada de plus. Hein. On parle de l'Éthiopie, du Soudan du Sud, du Yémen, de la République démocratique du Congo, d'Afghanistan, de Syrie, d'Haïti. Et là, oui, les problèmes sont géopolitiques en grande partie. Mmh. Un exemple, les parties au conflit utilisent souvent la faim comme arme de guerre. Alors, on peut se demander comment. Ben, déjà, en entravant l'accès de l'aide humanitaire,
l'exemple.
En créant des blocs.
On a l'exemple parfait, c'est ce que le rapport qui est sorti sur le conflit au Tigré en Éthiopie cette semaine, où la Commission pour les droits de l'homme des Nations Unies a pu expliquer que le Tigré, comme aussi l'armée éthiopienne, ont utilisé la faim et entravé les ressources des Nations Unies, le passage des ressources des Nations Unies sur leur territoire, afin de l'utiliser, et ont utilisé ça comme arme de guerre.
Exactement. Parfois, c'est comme ça, en entravant les accès, en entravant l'accès des populations aussi aux terres qu'ils cultivent, spécifiquement pendant les périodes de semences. Donc, on rate toute une année ou toute une récolte à cause de ça. Parfois, on embrase carrément les cultures, on décime le bétail, etc., etc., dans le but justement d'obtenir des avancées militaires. Et donc la solution, forcément, elle est en partie géopolitique, qui est de mettre toutes les pressions possibles pour arriver à des cessez-le-feu et à des accords de paix durables et inclusifs aussi, hein, qui ne tiennent pas compte seulement des élites politiques et des joueurs qui ont du pouvoir, mais aussi de la population,
totalement,
notamment les femmes et les jeunes et la société civile.
Est-ce que cette bisbille pour vous, en tant que travailleuse dans le domaine, est-ce que cette bisbille peut être contre-productive entre le président, le directeur du PAM et Elon Musk?
Écoutez, l'initiative individuelle n'est jamais malvenue, au contraire. Je pense que toute forme de solidarité internationale est nécessaire. C'est sûr qu'il existe un système de coopération internationale en ce moment, avec des engagements qui ont été pris par les États.
Totalement.
Je dirais que l'avantage des États, c'est qu'ils ont un système quand même de redevabilité auprès de leur population, et ils ont la possibilité de faire des pressions diplomatiques en plus de donner une aide financière solidaire. Et ça, c'est vraiment clé dans les théâtres de conflits armés, lorsque vient le temps de faire pression pour un cessez-le-feu, par exemple, sur les parties au conflit. Ça, les États peuvent le faire mieux que des personnalités individuelles, mais c'est sûr que la répartition de la richesse, s'il était plus équitable, créerait des conditions favorables à moins de pauvreté extrême et donc à moins de faim extrême.
Vous parliez de systèmes présents dans le monde et systèmes de redevabilité qui permettraient donc aux États de respecter comme il faut les engagements globaux. Mais si ce problème persiste et même s'empire en ce moment avec, comme vous le disiez, 20 millions de personnes en plus cette année, est-ce que ça veut dire qu'on a une faillite des instruments existants ou plutôt un manque d'efficacité, d'effectivité de ces instruments face aux conflits en cours ?
Une question complexe. Je pense que ces instruments, ils sont insuffisants, en partie parce qu'ils sont insuffisamment financés. Donc le fameux appel mondial pour la faim des Nations Unies n'a pas été financé suffisamment. Il y a eu un pacte pris par les pays du G7 plus tôt cette année pour prévenir la famine. Les engagements, notamment au plan financier, n'ont pas encore été réalisés, etc. Puis ensuite, il y a des investissements vers des priorités qui semblent être autres et qui sont contre-productives. Si on observe les dépenses militaires dans le monde, l'année dernière, elles ont augmenté de presque 3%.
Ça
représente 51 milliards de dollars. Mmh. Et là, voilà, on est à 6 fois plus que l'argent qui est demandé pour l'aide humanitaire aux populations qui sont dans la faim extrême. Mmh. Donc, il y a vraiment une question de choix, et ces choix, oui, sont contre-productifs. Au niveau mondial, au niveau des pays bailleurs de fonds, si on veut, dans ce système de solidarité internationale, mais aussi dans les pays mêmes où se produisent les conflits. Hein. Il y a des choix d'investissement. Le Mali, par exemple, a augmenté son achat d'armes de près de 700%
cet achat d'armes aurait pu être mis, ou même une infime partie qui aurait été assez suffisante, aurait pu être mis sur l'amélioration des conditions alimentaires et de la sécurité alimentaire de son peuple.
Oui, tout à fait.
L'autre chose que je voulais discuter avec vous, et par rapport à la fin du monde, c'est à propos de l'inflation alimentaire. On parle beaucoup de l'inflation du panier alimentaire, par exemple au Canada, mais cette inflation alimentaire se produit aussi à l'échelle de la planète entière. Est-ce que cette dernière aussi met en danger la sécurité alimentaire de beaucoup des ménages sur la planète et pourrait aussi provoquer une augmentation dans les prochains mois, voire dans les prochaines années à venir, des personnes en état de malnutrition?
Alors, c'est sûr que c'est très inquiétant à l'échelle de la planète, hein, cette hausse de à peu près 40% des prix des denrées alimentaires, qui est due évidemment à la COVID et à ces donc confinement, les fermetures de frontières, aussi la hausse de la demande en biocarburant. Mais cette hausse-là, elle frappe pas tous les pays de la même façon et toutes les populations de la même façon. Hein. Évidemment, elle affecte sur tous les endroits qui dépendent de l'importation de biens et qui n'ont pas les moyens de subventionner certaines denrées alimentaires. Si on regarde, par exemple, je parlais hier à une collègue au Venezuela, on s'attend à ce qu'à la fin de l'année, il y ait eu 1500% d'inflation.
Ah oui,
donc
d'accord.
Oui, on connaît une hausse des prix, on connaît une certaine inflation chez nous au Canada, mais
ça n'a rien à
quand
voir.
Même rien à voir. Au Yémen, depuis 2016, c'est 100% du prix des produits alimentaires de base qui a augmenté.
Et en Afghanistan, on apprend aussi que certaines personnes sont obligées de vendre leurs enfants pour pouvoir s'acheter à manger.
Absolument. Les conséquences sont graves pour que les gens puissent survivre. Il y a des manifestations aussi, comme on l'a vu à plusieurs reprises cette année au Liban, où les subventions au pain, hein, qui est la base de l'alimentation, ont été diminuées pour la cinquième fois depuis le début de l'année. Et ça fait que les gens vont dans les rues parce qu'ils n'ont pas, d'autre choix. On n'est pas à ces niveaux-là.
Quel est le travail et vos propositions à Oxfam Québec pour permettre d'atténuer ces problèmes?
Alors, il y a plusieurs propositions qui s'adressent à différents acteurs. Évidemment, d'abord aux États de financer intégralement les programmes d'aide humanitaire pour diminuer la faim dans le monde, chez les populations les plus vulnérables. Il y a tous les efforts diplomatiques et les pressions dont je parlais, pour garantir l'accès humanitaire. Et puis ensuite, on demande aux États vraiment d'instaurer la paix. Donc pas juste de ne pas utiliser la faim comme arme de guerre, mais de s'assurer qu'il y ait un leadership des femmes, des jeunes, des populations affectées par les conflits dans les solutions durables. On propose aussi de construire des systèmes alimentaires qui soient plus résilients et plus durables. C'est aussi une vaste entreprise, mais nécessaire.
Si on surtout avec le réchauffement climatique et les changements environnementaux.
Absolument. Et plusieurs des programmes qu'on soutient chez Oxfam visent à créer chez les populations, les agriculteurs familiaux, une plus grande résilience, une meilleure adaptation aussi aux effets des changements climatiques. Et puis enfin, s'assurer que les femmes soient vraiment au centre de la réponse à la pandémie et des plans de redressement comme facteur d'égalisation, si on veut, des ressources alimentaires. Et puis de soutenir l'accès au vaccin pour tous, parce que quand on a accès au vaccin, et c'est le cas ici au Canada, on observe que les niveaux de faim diminuent, parce que l'activité économique reprend et que les revenus reviennent aussi, et qu'il y a une plus grande mobilité. Puis enfin, il faut absolument agir de toute urgence pour gérer la crise climatique. Ça, c'est la dernière recommandation.
Dernière question rapide, comment peuvent faire nos auditeurs pour vous aider aussi?
Alors, suivre les actions d'Oxfam, mais pas seulement Oxfam, de tous les acteurs qui agissent en solidarité internationale, nous poser des questions sur nos projets, sur nos résultats, signer une pétition qu'on a pour arrêter de vendre des armes au Yémen et ainsi aider à mettre fin au conflit et à la sécurité alimentaire grave.
Merci Madame Fury d'avoir répondu à nos questions ce midi.
Merci à vous.
Donc, je rappelle que vous êtes la coordinatrice humanitaire à Oxfam Québec. Merci beaucoup et j'espère vous retrouver prochainement pour discuter de ce sujet.
Pareillement.
Merci beaucoup.
Au plaisir.
Notre deuxième invité du jour, c'est Sami Aoun, professeur à l'école de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke et membre de la chaire Raoul Dandurand. Bonjour Monsieur Aoun.
Bonjour Monsieur Julien.
Comment allez-vous aujourd'hui?
Très bien, parfait.
Un de mes anciens professeurs et un de mes anciens conférenciers, ça fait extrêmement plaisir de pouvoir vous recevoir dans l'émission. On va discuter avec vous de la situation en Afghanistan 2 mois après le retrait des forces américaines. Où en est le pays?
Il est toujours dans une période de transition, s'il faut croire un peu les nouvelles, mais certainement il est dans une spirale entre ordre et anarchie, et aussi les talibans se cherchent, à vrai dire, comment ils pourraient redessiner leur nouveau pouvoir. Et on remarque bien une certaine polarisation et une vacillation entre toujours une rigidité idéologique, en ce sens que les talibans gardent presque fermement leur vision du monde et leur vision de l'Afghanistan. En même temps, ils sont contraints à un certain pragmatisme, à une certaine réalité politique qui les oblige à séduire les grandes puissances intéressées en Afghanistan, particulièrement les États-Unis et les puissances européennes.
Quelque chose qui m'a fait titiller un peu cette semaine, c'était beaucoup de nouvelles qui parlaient du réseau Akhani. Quel est ce réseau? Parce qu'on parle des talibans qui réussissent à consolider leur pouvoir, mais de l'autre côté, un pouvoir qui est consolidé autour d'un réseau qui n'est pas vraiment le réseau privilégié par les puissances occidentales, comme même aussi par d'autres puissances comme la Chine ou la Russie. Donc quel est un peu ce réseau Haqqani au pouvoir en place?
Vous avez bien raison de le mentionner, parce que c'est l'acteur le plus dynamique, le plus, je dirais, qui pourrait surprendre les intérêts, soit chinois, soit occidentaux. Mais il faut revenir un peu dans l'histoire. Haqqani, le père fondateur, était jihadiste contre l'Union soviétique, contre le communisme, et il croyait qu'il a quand même participé activement et positivement dans l'effondrement de l'Union soviétique en faveur du retrait soviétique de l'Afghanistan. Et maintenant, où est-il après qu'il a été dans la bonne grâce des États-Unis? Aujourd'hui, on le voit, et depuis des années, il est plutôt en fusion ou en alliance très intime avec le réseau Al-Qaïda de Osama Ben Laden. En ce sens, lui, entre les frontières pakistano-afghane et au-delà des deux côtés des frontières, il a quand même ses points de repère et il a quand même quelques refuges importants. Et on le soupçonne que dans les dernières années, là où la coalition dominait en Afghanistan, que lui, il était derrière de beaucoup d'attentats. Donc c'est l'aile, si vous voulez, des talibans qui est la plus agressive. Mais en même temps, ce qui est remarquable, et il faut le souligner à n'importe quelle distance qu'on se prend, que maintenant le fils de ce Haqqani, il est aujourd'hui Sirajuddin, il est lui-même le ministre de l'Intérieur.
C'est ça.
Donc c'est lui qui est responsable de l'ordre, et son oncle Khalil Haqqani est responsable des réfugiés. Alors on se comprend, ils ont des postes.
Ils ont des postes clés.
Et même maintenant, leur relation avec l'État islamique n'est pas si claire. En ce sens, que, ce que vous avez souligné...
Parce qu'on les considère un peu comme rivaux, normalement.
Oui, certainement. Il y a beaucoup de points communs au niveau idéologique, mais il y a quand même des différences. Surtout que le réseau Haqqani est sous un fort contrôle, je dirais, sinon... une bonne manipulation de la part du Pakistan et des services de renseignement pakistanais. En ce sens, est-ce que le Pakistan va utiliser le réseau Haqqani ou l'appuyer dans un combat contre l'État islamique?
C'est ça.
Cela va faire le bonheur de la Chine, en ce sens.
Pourquoi ça va faire le bonheur de la Chine? C'est une question par rapport au Xinjiang et aux tensions qu'il pourrait avoir à sa frontière?
Oui, vous avez bien raison. Il y a beaucoup de Ouïghours qui sont des opposants au pouvoir chinois et qui pourraient certainement influencer la grande minorité musulmane en Chine et qui certainement a beaucoup de doléances et qui se sent victime du pouvoir autoritaire, despotique même de la Chine et surtout de la domination de l'ethnie Han qui est l'ethnie majoritaire en Chine.
Petite question avant de continuer la discussion à propos du Pakistan et donc de ce réseau Haqqani, c'est est-ce que la présence de ce réseau et la présence de ce réseau à des postes clés peut jouer en faveur ou pas de la reconnaissance internationale du gouvernement taliban en l'état?
C'est très bon point parce que le Pakistan va les utiliser à un certain moment pour élargir ou consolider son influence dans la destinée de l'Afghanistan et surtout dans les décisions les plus importantes d'un pouvoir taliban et surtout dans le gouvernement. Pour le moment, les talibans ont le monopole de ce gouvernement, mais à un certain moment, et c'est une condition occidentale, canadienne, américaine, européenne, qu'ils doivent former un gouvernement inclusif, et en ce sens, on signifie deux points, la participation des autres ethnies, particulièrement les Tadjiks et les Ouzbeks, et l'autre point, les minorités, les Hazaras, les Chiites, et aussi les femmes particulièrement.
Donc, retournons sur le Pakistan. Cette semaine, dans le Hindustan Times, on a pu apprendre que les États-Unis étaient en discussion avec le Pakistan pour une collaboration ou au moins un soutien pakistanais à de possibles frappes sur des cibles de sécurité pour l'Amérique. Est-ce que ces possibles frappes américaines et cette collaboration avec le Pakistan aussi qui pourrait se passer marquent-elles plutôt un échec de la stratégie de retrait américaine et marquent-elles aussi un échec même totalement de la stratégie qu'on a pu avoir les puissances occidentales et la coalition en Afghanistan dans les 10 à 20 dernières années?
Il faut prendre le terme échec et le bilan des Américains avec un peu de pincette, parce qu'à vrai dire, il est très difficile d'y voir un échec au sens stratégique. La stratégie américaine de se replier de l'Afghanistan remonte peut-être à quelques quinzaines d'années à peu près. Deuxième point, l'objectif des Américains, c'est de s'affranchir du fardeau du territoire afghan, c'est-à-dire de la gestion quotidienne de l'Afghanistan. Oui, et encore plus, ils ne voulaient pas un déploiement territorial. En ce sens, ils vont être responsables de la sécurité de l'Afghanistan, en quelque sorte, mais par l'air, sans intrusion, puisque la guerre a changé de typologie. On n'a plus besoin maintenant de ce déploiement terrestre comme auparavant. Il y a les drones, il y a les satellites, et ils ont leurs propres alliés sur le terrain. Maintenant, est-ce que le Pakistan va peut-être être complice avec les Américains pour des frappes? Je doute fort, parce que le réseau Haqqani, à vrai dire, c'est son bras armé. Alors, c'est difficile que le Pakistan le sacrifie, et connaissant que le réseau Haqqani aussi, il est sous le regard des services de renseignement pakistanais. Mais ce qui peut se faire à ce moment, c'est de cibler quelques figures de Al-Qaïda. Donc, en ce sens, le Pakistan va être complice. L'autre point où le Pakistan peut être complice, parce qu'il y a une faction de Tahrik taliban sur le territoire pakistanais, est très inimical à l'égard du pouvoir central pakistanais.
Donc en fait, en gros, ces frappes, si collaboration il y a, ça serait surtout un échange de bons procédés où les cibles de sécurité américaines vont pouvoir être détruites, mais aussi les cibles dangereuses potentiellement pour le pouvoir pakistanais le seront aussi. Certaines franges d'Al-Qaïda, certaines franges des talibans qui sont contre le pouvoir pakistanais, possiblement l'État islamique aussi.
Oui, certainement. C'est très bien dit. Et en ce sens, l'État islamique, Daesh, le Daesh maintenant afghan, qui est un peu différent, en tout cas, malgré la loyauté, mais ce groupe-là est difficilement, à mon sens au moins, atteignable par les talibans, et ils ont besoin d'un appui surtout de l'aviation américaine.
À propos de Daesh, dans la région, où en est la situation pour ce groupe? Est-ce qu'ils sont assez influents? Est-ce qu'ils sont dangereux même pour la région?
Non, au niveau nombre, ils n'ont pas un nombre imposant, moins de 3000. Mais le fait qu'ils soient dans les montagnes et dans des villes...
À fort pouvoir de nuisance.
Oui, c'est ça, c'est en ce sens. Deuxième point, il y a une divergence importante. Les talibans veulent, après tout, être les seigneurs de la destinée de l'Afghanistan. Ils n'ont pas des ambitions extra-frontalières, tandis que l'État islamique a une ambition de recréer le califat musulman et aller frapper l'ennemi lointain, l'Occident, et aussi les ennemis internes qui sont les pouvoirs en place. Et en ce sens, ils se rencontrent avec Al-Qaïda plus qu'ils se rencontrent dans les objectifs et la vision avec les talibans.
Au-delà de ces problématiques, pour vous, quel va être l'avenir dans les futurs mois à venir de l'Afghanistan?
À vrai dire, il est très difficile de saisir. C'est un pays qui vit sur le spectre d'une famine qui va toucher à peu près la moitié de la population. Aussi, il faut remarquer que historiquement, l'Afghanistan n'avait pas vraiment des ressources pour sa propre survie, d'où l'Afghanistan a joué toujours soit un lieu de règlement de compte entre les puissances avoisinantes, le Pakistan, l'Inde, la Russie et l'Union soviétique par après, et maintenant les Américains et les Chinois. Alors, en ce sens, l'Afghanistan aussi n'a pas nécessairement cette ambition de créer une certaine prospérité pour son peuple sans l'aide, et surtout l'aide occidentale particulièrement. Alors voilà, il y a un dilemme ici.
Totalement. Bah, je vous remercie beaucoup, Sami Aoun, d'avoir répondu rapidement à nos questions ce midi. Je rappelle que vous êtes professeur émérite à l'École de politique appliquée de l'Université Sherbrooke, que vous êtes aussi membre de la chaire Raoul Danturan, et que vous sortez le 15 novembre un livre à ne pas manquer, « Penser la citoyenneté, laïcité, pluralisme et islam ». Comme d'habitude, j'incite toutes les personnes à lire vos ouvrages. C'est extrêmement renseignant. Merci beaucoup, Monsieur Aoun, d'avoir été avec nous ce midi.
Ah, merci à vous, c'est bien généreux de votre part.
Merci beaucoup, passez une très belle journée. Avant de se quitter, un petit commentaire sur l'actualité. J'ai pas pu traiter, vous savez très bien, depuis cet été, je m'intéressais beaucoup aux questions linguistiques et en travaillais un peu dans le domaine et en aussi fait des actions politiques dans le domaine. J'ai malheureusement pas pu traiter ou pas eu la chance de pouvoir terminer de préparer quelque chose sur l'affaire Michael Rousseau. Donc je voulais vous proposer un petit commentaire avant de vous quitter et de vous retrouver la semaine prochaine. N'en avez-vous pas marre de vous faire cracher dessus? Et souhaitez-vous vous réveiller? Quand vous voyez un peu les commentaires de certains anglophones, quand vous voyez les commentaires de certaines personnes qui refusent de reconnaître la différence québécoise, refusent de reconnaître la langue française, considèrent la langue française comme une langue d'usage et non la langue officielle du Québec, n'en avez-vous pas marre? On peut voir dans le commentaire hier du président d'Air Canada une certaine déconnexion avec la réalité québécoise, une déconnexion qui s'est faite apparente de plus en plus cette année avec, par exemple, la nomination d'une gouverneuse générale unilingue, un candidat à la mairie de Montréal proposant une partition de la ville envers le reste du Québec, un refus même de la réalité française et francophone du Québec, expliquant par exemple que imposer le français, imposer la norme française au Québec, ce serait aller contre un sentiment de vivre ensemble. Où ça va aller? Moi, je pense que ce qui s'est passé hier n'est qu'une suite des choses de ce qu'on peut voir dans les dernières années. C'est qu'avant, on pouvait dire « speak white » dans les années 50. Vous avez pu connaître « speak white », les anciennes générations. Ensuite, les générations suivantes ont pu se battre pour le français. Et maintenant, un certain endormissement depuis l'échec du référendum de 95, certaines volontés de vivre ensemble, certaines volontés de calme amènent à ça. Moi, je pense qu'il est nécessaire un peu de se réveiller par rapport à ce qui se passe en ce moment, par rapport à la volonté de défendre le français, parce que c'est la volonté de défendre la culture québécoise, qui est une culture francophone dans le Canada et même dans l'océan anglophone qu'est l'Amérique du Nord. Et c'est une sorte d'appel, une sorte d'avertissement, parce que là, ça peut être un PDG. Dans pas longtemps, ça va être peut-être un futur candidat à la mairie qui aura beaucoup plus de chances de se faire élire que Ballarana Homeless. Peut-être bientôt un futur patron du Parti libéral du Québec, quand on voit André Pratt ce matin préconiser l'abandon du nationalisme pour que le PLQ puisse reprendre le pouvoir. Et dans pas longtemps, vous deviendrez comme la Louisiane. Donc en tant que Français qui vit au Québec et qui aime le Québec et qui y vit depuis des années, je vois, c'est sûr que les Français, nous, on a beaucoup de torts, on anglicise beaucoup de nos mots et autres, mais on a la chance d'être 70 millions. Vous ne l'avez pas. Je pense qu'il faut pouvoir vous réveiller, pouvoir prendre en compte la menace dans laquelle le fait français est en ce moment, car sinon, à la fin, vous allez devenir comme la Louisiane. Sur ce, merci d'avoir été à l'écoute, comme d'habitude, du Monde d'aujourd'hui. Et je vous invite à nous suivre la semaine prochaine pour un retour sur les élections municipales avec nos merveilleux panels politiques qui ont pu être réunis lors de nos précédents numéros.